Parce qu'il y a un moment où ça va être le bon moment d'y aller, en tout cas dans le
B2B. Être à bord.
Ouais, absolument.
Je reviens sur le lancement de Com, parce que tu as pris un méga risque, et je ne sais pas si tu en avais parlé aux entrepreneurs qui étaient autour de toi, mais quand on casse les prix comme ça, on peut... Enfin, 1000 balles, je ne sais même pas ce que tu finances. Alors, comme tu dis, tu étais en mode bootstrap, on utilisait les apparts et autres, mais ces vidéos-là, aujourd'hui, elles sont difficilement en toutes 5 ou 6 000 pour une vidéo de lancement de quelques secondes, sans gros moyens. Toi, tu as décidé d'arriver en cassant le marché. Pourtant, aujourd'hui, enfin, Com est né avec un positionnement un peu la petite agence sympa qui va vous faire du contenu accessible. C'est pas le positionnement que forcément que tu as aujourd'hui, avec un positionnement plus quali, avec des clients peut-être un peu plus corporate, et tu vas chercher des chiffres aujourd'hui plus importants. Comment tu t'y es pris pour pas être englué, alors peut-être que c'est le cas, hein, je sais pas, mais pour te sortir de l'image de la boîte cheap, accessible pour la startup qui se lance et qui a pas un rond, et comment tu step up et tu sors de cette étiquette-là?
Bah écoute, ça a été hyper compliqué. En fait, je ne pensais pas que Com allait prendre cette ampleur. En tout cas, c'est à mon échelle, c'est exceptionnel et j'en suis super content. Et Flo aussi. Donc voilà, on pensait pas que ça allait grossir autant. Donc on n'avait pas anticipé le fait de se dire que cette offre qui est très alléchante, qui est un peu une évidence quand tu fais, t'as une stratégie par le prix, c'est un peu l'évidence. Tout le monde peut le faire,
pas
tu vois.
Que ça marche.
Pas autant en tout cas. Ouais. Et donc quand ça a bien fonctionné et qu'on a vu l'effort qu'on mettait, et notamment Flo parce que c'est lui qui faisait tout le tournage, en fait, on sentait bien que dans la durée, c'était impossible de tenir cette cadence. Par contre, ça nous a permis à un lancement de tout de suite faire un peu de bruit et voilà, c'est ça, un peu de, et d'être identifié dans cette quand même océan rouge, hein, parce que t'as quand même un max d'agences vidéo qui existaient. Mais en tout cas, de faire notre petite coup de com qui nous permet de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Par contre, effectivement, d'être attaché à cette offre à 1000 euros, ça a été hyper complexe parce que aujourd'hui encore, 4 ans après, on a encore des gens qui nous disent « Et alors, l'offre à 1000 euros, c'est où, pourquoi, comment ?» Donc tu vois, on a encore cet historique et ce passif qui nous colle à la peau, et je le dis pas de manière péjorative parce que ça correspondait parfaitement au moment de vie de Com à un lancement. Maintenant, ça correspond moins à notre business model et comment est-ce qu'on a fait pour se détacher un petit peu de cette offre? Ça a été d'être patient parce que tu peux pas dire à tes clients « Je passe de 1000 à 100 000 du jour au lendemain sans aucune explication. » Donc on savait qu'on allait augmenter nos prix de manière transitoire et smooth, tu vois. On a proposé des offres à 2000, puis à 4000, puis à 10000, puis à 25. Donc tu vois, ça s'est fait dans le temps. Ça nous a aussi nécessité de montrer la différence entre une vidéo à 1000 euros et une vidéo à 5000, et donc du coup de mettre énormément d'efforts dans des vidéos à 5000 pour essayer de créer une différence assez notable, tu vois, entre l'offre à 1000 euros et à 5000. Donc ce qui est chiant, c'est que bah même sur celle à 5000, on surinvestissait un peu trop, donc nos points, ouais, de marge étaient pas
toujours
pas ouf, jusqu'à réussir petit à petit à avoir des personnes qui nous font confiance. Louis Marty en a fait partie,
sur la partie Spot TV notamment.
Absolument,
qui a été un step
ça a été un des moments phares de l'évolution de Com. Donc en deux secondes, mais Louis Marty, au bout de un an et demi je crois de Com, où notre panier moyen aux alentours de 4-5 000 euros, me dit, Harold, j'ai mon premier spot télé pour Merci Andy. On est pendant la période du Covid. Merci Andy, c'est du gel hydroalcoolique.
Le truc du moment.
Truc du moment. Donc là, je me dis, waouh, confiance de ouf côté Louis et une opportunité de dingue. Et on fait son spot télé qui nous a mis dans une autre sphère où on a fait de la télé avec des plus gros budgets. Donc
ça t'a légitimé dans absolument une catégorie que tu n'avais pas encore, à laquelle tu n'étais pas encore identifié.
Et qui tombait très bien par rapport à ta première question, qui est comment on se détache de l'offre à 1000 euros. Bah, quand tu arrives en disant j'ai fait le spot télé de Merci Andy qui est passé sur M6 et autres, t'imagines bien que c'est pas une offre à 1000 euros. Donc tout de suite, ça nous légitimait à proposer des budgets plus importants. Et voilà, ça s'est fait un peu dans le temps. On a fait plein de gros spots qui aussi, encore une fois, avec la bonne communication autour, on expliquait pourquoi ça coûtait 300 000 plutôt pourquoi ça coûtait 300 000. Bah, on éduquait un petit peu notre audience à comprendre qu'en fait, bah, t'avais des offres à 1000 euros avec lesquelles tu pouvais avoir tel type de rendu et des campagnes à 300 dans lesquelles t'as d'autres rendus.
Donc, d'appel et un truc plus concret.
Et ça, on essayait de le faire sous le format, et c'est ce qu'on essaie de faire toujours. C'est un peu de l'edutainment. C'est, on apporte de la valeur de fond. On éduque un peu notre audience avec des formats qui sont toujours cool et assez novateurs. Et voilà. Donc, ça s'est fait dans le temps. C'est long. C'est fastidieux. Donc, les personnes qui veulent se lancer avec une stratégie par le prix, c'est une très bonne chose. Mais il faut bien anticiper, je pense, l'après.
Il faut s'attendre à ce que ça cartonne. Et si ça devait cartonner, comment tu vis avec ce positionnement au prix?
Exactement.
Ça ressemble à quoi, Com, aujourd'hui, en termes de chiffres, de taille, de dimension, de dynamique?
Raconte-moi un peu. Écoute, comme on est 35, on était, quand on était 40 il y a 6 mois, mais on a décidé de senioriser la boîte, maintenant on viendra peut-être après. Donc 35, on va faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une boîte qui est rentable parce qu'on fait à peu près entre 20 et 25% des EBITDA depuis le jour 1, ce qui est cool. Donc ouais, c'est plutôt une boîte rentable. On vient de lever des fonds. On était jusque-là en bootstrap, en autofinancement, mais on a levé des fonds là il y a à peine, on a clôturé la levée, je crois il y a même pas un mois. Non, parce qu'au fait, ça s'est fait hyper vite. On a levé un peu moins d'un million en. Alors, je te parle pas de tout l'aspect juridique qui est quand même assez long, assez fastidieux, mais on a fait ça en même pas un mois. C'était que avec des business angels et beaucoup de personnes ont été embarquées, je pense, par le projet parce qu'on est très visible, c'est assez sexy et cool. Tu vas pas chercher ta culbute à fois 100 comme un SaaS. Par contre, d'investir dans une boîte qui est relativement, enfin, très rentable, tu minimises ton risque, on va dire. Et on a levé des fonds, mais pour une autre stratégie qui va être le M&A, la croissance externe. Donc, on a pour ambition d'aller racheter des structures dans le temps. Mais voilà, donc, pour répondre à ta question, pardon, 35 personnes, bientôt 4 millions d'euros de chiffre d'affaires,
un peu plus de
350 clients, tout le monde à Paris. Ouais. C'est un truc sur lequel, tu vois, je me questionne d'ailleurs, de commencer à réfléchir à avoir d'autres villes dans lesquelles on irait. Je pense pas que ce serait un enjeu stratégique business plus que pour les équipes. On a beaucoup de gens qui viennent du sud et ils me le font savoir tous les jours que parfois le soleil du sud. Ouais, en tout cas en France. Ouais. Okay. Mais voilà pour les chiffres.
Et en termes de positionnement, vous avez un positionnement qui correspond à une industrie particulière ou à une typologie de clients particuliers ou c'est ouvert?
Bah en fait on est passé d'une boîte de production, donc les trois premières années on était une boîte de prod, donc c'était un peu on était les techniciens de l'audiovisuel, donc en gros on répondait au how de nos clients, c'est genre il y a un brief et nous on te dit comment on fait pour pouvoir le mettre en œuvre. Quand là on s'est positionné au modèle d'agence, donc maintenant on n'est plus sur le how, on est sur le why, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire des campagnes. Donc on a implémenté en fait tout ce volet stratégique qu'on n'avait pas forcément avant et qui se sentait. Parce que parfois on faisait des capsules vidéo qui étaient super esthétiques, canon, mais qui faisaient 300 vues parce qu'elles n'avaient pas été pensées stratégiquement, parce qu'elles n'avaient pas été...
Ni en amont, ni en aval. Quoi.
Exactement. Et donc ça, on a rajouté ces deux volets de strat en amont et en aval de diffusion, qui fait que maintenant on couvre ce qu'on appelle une campagne maintenant. Et nos clients, c'est principalement de la scale-up PME grand groupe, puisque notre panier moyen a quand même un petit peu évolué. On essaye de... Tu vois, le panier moyen d'il y a deux ans, c'était plutôt 15-20 000 euros. Sur des contenus un peu one shot de branding ou de notoriété, quand maintenant c'est plutôt des 200 000 ou 300 000 euros, mais qui couvrent l'intégralité de la communication de nos clients, la marque employeur, les sujets internes, les sujets externes. Et c'est là-dessus qu'on essaie de se positionner. C'est d'avoir une vision de transformation de boîte, tu vois, de se dire, t'as une boîte qui communique de cette manière, on redistribue totalement les cartes pour la faire communiquer à 360 de manière différente. Donc c'est un modèle qui est différent. Ça a été compliqué de faire ce changement. Ça a été une année très très douloureuse émotionnellement de faire ce repositionnement parce que ça nécessitait beaucoup de enfin on a pris des décisions qui étaient dures, de faire partir des gens alors qu'on avait jamais, on n'avait pas de turnover chez Com. La culture était exceptionnelle.
Là,
tout ça, ça
peut casser un truc quoi. Ouais. Ça me fait penser à peut-être toute proportion gardée, mais à l'époque de Grégoire Gambetta et Germinal, ouais. Et à un moment donné, ils étaient agence, ils se sont dit non, on bascule, et en fait, tu perds, tu peux casser une mécanique qui tourne, ouais. Et un équilibre que tu as trouvé, qui était dur, ouais. À trouver. Mais voilà.
Et puis tes équipes qui te rejoignent pour l'aventure dont tu leur as parlé il y a deux ans, dans une boîte de prod, ouais. Et là, tu leur dis, mais en fait, les gars, on n'est plus une boîte de prod, mais une agence, plus pour les mêmes enjeux, et leur quotidien change aussi, donc ça crée parfois une distorsion entre ce qui était leur mission actuelle et leur nouvelle, et voilà, ça a créé des points de rupture pour certains, et ça a été hyper compliqué à vivre parce qu'on y revient sur mon parcours, enfin sur ma personne. Je suis quelqu'un qui suis très émotif, je m'attache aux gens, etc. Et quand j'ai vu que certaines personnes sont parties, soit parce qu'ils l'ont souhaité, soit parce qu'on l'a souhaité, ça a été un déchirement de ouf, mais ça m'a vachement appris et je trouve que je suis devenu plus sage. Après cette année, tu vois, je vais être futur papa, je te l'ai dit, mais j'ai l'impression d'être plus sage maintenant. Je prends un peu plus de recul sur les choses aussi parce qu'il en faut, sinon tu te crames. Vraiment.
Et tu parlais je t'ai entendu parler de Com 1.0, 2.0, 3.0. Dans les grandes phases, Com a eu quoi comme évolution, la boîte bootstrap? Après, en plus, tu as diversifié avec la partie agence, la partie média, mais tu peux me donner en quelques... Finalement, ça s'est passé en 3-4 ans, donc c'est assez rapide. On a monté notre boîte ensemble d'ailleurs. Moi, c'était 2019 c'est... aussi. Ouais, okay. Et j'en ai fait moins. Et c'est... Enfin, quoique. Bon. C'est pas moins diversifié, mais toi, tu as quand même pris des risques avec des... une partie média, une partie agence. Raconte-moi dans les grandes lignes, les grandes étapes de ce développement.
Ok, bah, je dirais qu'il y en a potentiellement trois. C'était un, la boîte de prod Com dont on a déjà parlé. Deux, effectivement, le média qui a eu vraiment son importance, qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans, donc 2 ans après le lancement de Com. On est toujours dans une logique donc, de créer du contenu pour avoir de l'inbound. On se rend compte qu'on a envie d'aller encore plus vite, encore plus loin, et donc on voulait intensifier notre image de marque et notre notoriété, et on a eu le bon feeling de se dire que de créer un média, s'il est bien fait dans le fond et dans la forme, ça nous permettrait d'avoir une nouvelle rayonnance un peu différente dans un environnement B2B. Et assez naturellement, on se dit, let's go lancer un média sur lequel on parle de sujets business pour bien être en adéquation avec nos clients idéaux, mais avec des formats qui sont méga canons et novateurs, parce que comme ça, ça permet de mettre en avant le savoir-faire de Com. On l'appelle Com Media, donc avec le nom Com volontairement pour faire rayonner.
C'est un peu
le...
une vitrine de votre savoir-faire. C'est une vitrine,
exactement. Je dis souvent, Com Media, ça a été le meilleur commercial de Com. Okay. Et donc, on a fait grossir le média quand même assez vite. On a fait un peu plus de 15 millions de vues en organique, ce qui est quand même assez cool sur l'écosystème B2B. On a eu un business model qui a commencé à se dessiner, à se construire avec le média, puisqu'on a lancé des émissions comme Second Degré, Charabia, on a lancé des documentaires, on en a fait 4, c'est des gros montants. On a mis en place des formes de sponsoring pour que certaines entreprises soient mises en avant sur notre média, modulo du recurring, donc pour nous en plus de l'MRR, donc ça a été cool. Donc en fait, on a créé une autre structure avec un business model qui se tenait à lui-même, tu vois, même si c'était rattaché juridiquement à Com. Et ça, ça a été un moment un peu important de Com, puisqu'on a dû gérer deux business models un peu différents et en même temps faire rayonner l'un et l'autre ensemble en concomitance. Et ça a été une étape un peu majeure. Et je dirais que la troisième, ça a été ce repositionnement dont je viens de te parler là cette année, de boîte de prod à agence, qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est le fameux Com 2.0 dont je parle depuis septembre, qui est le Com agence avec des attentes au niveau de ce qu'on rend et au niveau, moi, en interne, des équipes qui a vraiment, vraiment évolué. Je veux vraiment qu'on passe de start-up sympa à vraie entreprise, sans pour autant perdre notre culture, sans pour autant perdre tout ce qu'on fait très bien. Et ça, de toute façon, c'est pas un truc qui va à l'encontre. Mais simplement, j'ai vraiment envie d'avoir cette logique. On devient une boîte pérenne, et tu vois, qui est plus solide que le côté très start-up un peu foufou, qui aura été exceptionnel les 3 premières années, mais qui aura été aussi éprouvant. Psychologiquement, parce que tu mets la main à la pâte partout, tout le temps, sans arrêt, et on s'est un peu fatigué avec Flo de ça. Donc on a redistribué les cartes pour ce nouveau Com 2.0. J'essaie de te donner avec toute transparence la réalité aussi de l'entrepreneuriat, parce que tout est beau, tout est rose sur les réseaux, t'as toujours la partie émergée de l'iceberg et autres. La réalité, c'est que derrière, il y a des choix à faire qui sont parfois durs, il y a ce que tu ressens toi en tant qu'entrepreneur qui te challenge et qui a son impact aussi sur ton perso. Donc là, on a un peu redistribué tout ça pour que ce Com 2.0 soit beaucoup plus viable dans le temps, beaucoup plus avec une logique beaucoup plus pérenne des choses, et voilà.
Et le binôme Flo Harold a toujours bien fonctionné, c'est... parce que c'est assez étonnant, parce que toi, t'es très très pote avec un quatuor, mais en tout cas vous êtes soudés depuis longtemps.
Ouais.
Là, tu passes tes journées avec quelqu'un que tu connais pas, qui arrive de nulle part.
Ouais.
Ça fit. T'as un retour d'expérience là-dessus et des conseils à donner pour ceux qui s'associent, comment choisir un associé. Est-ce que c'est uniquement du fit et un coup de chance derrière?
Je pense
que comment vous l'avez construit cette relation?
On a fait tout ce qu'il fallait pas en soi. On n'a pas fait de pacte d'associé. On a dû le faire pendant la levée.
On se connaît pas, on fait pas de pacte, on monte une boîte. Wow.
T'imagines? Donc c'est en l'état, l'écart. Enfin, t'as 100% de chance de te cracher. Donc là, je pense que le facteur chance, comme n'importe quel entrepreneur, rentre en jeu, prend 95% de la raison pour laquelle ça fit méga bien. Après, je pense que plus que de la chance, c'est aussi un petit peu l'historique du. En fait. Ça a été fait qu'au feeling, donc c'est pas le meilleur conseil, c'est pas ce que je recommande aux entrepreneurs, mais je pense que le feeling, parfois c'est une connotation très hasardeuse, alors qu'en fait pour moi c'est le découlé de tout ton passif qui fait que quand tu t'es fait parfois ken, quand parfois t'as fait les bons choix, quand parfois t'as vu certaines choses, bah c'est ça qui aiguise ton feeling. Exactement.
Tu te connais
exactement, tu sens un peu mieux les choses, et il s'avère qu'on a fondé Com et notre association exclusivement là-dessus. Et on a eu donc cette chance de se dire que 4 ans après, on n'a jamais été aussi soudés avec Flo, d'autant plus suite à cette année un peu plus complexe. Mais c'est devenu un de mes meilleurs amis. C'est comme mon frérot, je le vois autant que ma femme. Enfin, c'est devenu une pièce un peu centrale de ma vie. Et c'est incroyable que de partager, je trouve, des moments comme ça avec un associé, et je me vois pas, tu vois, entreprendre seul. Plusieurs fois, je me suis posé la question sur dans un futur proche ou lointain, de me dire, je remonte une boîte, est-ce que je le monte seul? Honnêtement, ça a été c'est tellement idyllique avec Flo que je ne vois que les bons côtés de l'association versus monter une boîte seule. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai pas de conseils, de bons conseils, puisque ça peut être, enfin, il faut pas faire ce qu'on a fait avec
l'autre. Il faut savoir suivre son feeling une fois de temps en temps et pas suivre forcément une théorie et des conseils extérieurs, mais le feeling compte.
Ouais.
Et plus les années passent, plus le feeling compte aussi, je trouve. Et tu me fais rêver en parlant de binôme. Moi, j'ai monté ma boîte seule au départ. Maintenant, je suis bien entouré, mais au départ, c'était surtout quand tu passes le Covid et que t'as 10 000 questions, tu sais pas si ta boîte va fermer ou pas. C'est pas toujours évident, et je rêvais d'avoir un binôme sur lequel tu peux lâcher ton sac et dire ce que t'oses pas dire à tout le monde. Et voilà, je conçois. Il y a un truc sur lequel t'excelles, c'est le personal branding. Et d'ailleurs, je sais pas, quand on parle de Com, si on parle de Com ou si on parle d'Harold, parce qu'il y a une, t'es emblématique pour cette marque-là, t'es un visage qui est, en plus, qui passe bien dans la vidéo, dans la caméra et autres. Donc je trouve que, t'incarnes cette boîte-là. Qu'est-ce qui t'a mis sur les rails? Est-ce que c'est essentiellement seul? Est-ce que tu t'es inspiré de certaines personnes ou de certaines choses pour travailler ton personal branding et devenir une référence en la matière?
Le fait de prendre la parole face cam avec cette vidéo de lancement de Com, ça a été clairement suite à une vidéo qu'on a vue avec Flo qui s'appelait Dollar Chef Club. Je sais pas si tu vois cette vidéo.
Je vois très bien.
Et on a vu cette vidéo,
entendu en parler, donc c'est pour ça aussi que je vois, mais...
Qui était donc incroyable, c'était un mec qui vendait des rasoirs, je crois.
Humour simple, décalé, mais hyper efficace.
Exactement. On a vu cette vidéo, on a dit, c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça nous a tellement hypé, ça nous a tellement scotché. On a regardé ensuite tous les autres contenus où la personne en question, le fondateur, j'ai plus du tout son prénom en tête, mais continuait un petit peu dans cette logique de se mettre en avant et d'incarner la structure. On s'est dit, putain, en fait, c'est comme ça, c'est ça qu'on doit faire. Donc tu vois, c'est clairement
un guide dès le départ. Okay.
Absolument, dès le début. Quand on a vu que ça fonctionnait bien avec la première vidéo, puis la seconde, on s'est dit, ok, c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on doit appuyer et intensifier nos efforts et vraiment que Harold, le personnage Harold, incarne la structure. Ça a été et c'est encore une très bonne force, puisque encore une fois, je pense que tu t'attaches plus à une personne qu'à une boîte, qui est un petit peu, encore une fois, moins humaine, tu vois, et moins palpable. On est en train, dès maintenant et depuis un an, de bien faire attention à ce que Com ne soit pas dépendant d'Harold, puisque si Harold demain se barre pour X ou Y raison et ou
que la boîte
et que les gens n'en peuvent plus de voir ma tronche, et ce qu'on identifie, enfin, on anticipe ça parce que forcément ça arrivera. Exactement, de se dire, ok, en fait, Com roule seul. Je pense que ce travail, on le fait bien, honnêtement. Ça fait un an qu'on encore une fois, on a une logique de transition, on passe pas du tout à rien, mais Com a sa communication avec les sujets qu'il traite à sa manière et à sa sauce, et j'ai les miens. Alors forcément, il y a des bridges qui se font entre l'un et l'autre, mais on essaie d'isoler et de communiquer de manière totalement différente. Je dis le média Harold, non pas par ego ou truc, c'est juste qu'on s'en sert. Moi, c'est pas j'aime bien communiquer, j'adore mettre en avant, mais j'aime bien aussi être chez moi et ne pas regarder les réseaux, ne pas communiquer. Moi, ça me va très bien aussi, tu vois. Donc, je le fais aussi et surtout pour le business et parce que ça va bien pour Com. Mais on est vraiment en train de se dire que dans 2 ans, Harold est totalement effacé de Com. Totalement effacé. Et ce soit un média totalement à part, limite que tu peux consommer et que tu comprends et pour lesquels tu fais pas forcément de point de jonction avec Com.
Ça, c'est un objectif que vous êtes mis de réduire la voilure.
Absolument. 24 mois, Et donc voilà, surtout qu'on a pour ambition de construire un groupe. On a une spin-off qu'on va lancer là en janvier. On a des boîtes qu'on va racheter. Donc il faut absolument que, en fait, toutes ces boîtes vivent par elles-mêmes et que Com soit un peu le groupe qui gère ces différentes structures et que non plus, et que Harold se détache de tout ça. Je pense que on va arriver au bon moment, tu vois. Et puis, en plus, ce côté, pour moi, t'as mettre en avant le CEO et t'as incarné la structure. Mettre en avant Harold parce que je suis CEO, bien sûr, mais incarner la boîte, ça, c'est un truc qu'on a envie de faire évoluer, parce que je trouve que ça correspond un petit peu plus au modèle d'âge de start-up, plus